Vous écoutez Radio Campus sur le saucisse pois chiche et sur campuslille.com. Vous êtes de véritables privilégiés. Eh bien, privilégiés qui nous écoutez, vous allez entendre des privilégiés encore plus privilégiés que vous cette semaine, puisque nous allons parler des cheminots. En toute fin d'émission, vous retrouverez bien sûr notre rubrique cassette. Il sera question, on pourrait l'appeler la rubrique rétro, puisqu'il sera question du RPR et du PS, deux partis aujourd'hui disparus. C'est en toute fin d'émission. Mais donc, ce soir, il est question des cheminots avec, vous le savez, ce fameux rapport Spinetta. Ça commence toujours par un rapport, hein. D'abord un petit rapport, et puis ensuite il est appliqué par le gouvernement en place, et puis ensuite il y a un rapport de force, et puis ensuite on se fait niquer. C'est comme ça que ça se passe normalement. Et nous on va parler des cheminots en espérant que ben, peut-être que cette fois on ne sera pas niqué. Et c'est possible, et nous on y croit. Le 22 mars il y aura en tout cas déjà une grosse manif, pas que des cheminots d'ailleurs, mais on en parlera aussi la semaine prochaine. En tout cas ce soir on parle de la SNCF, des cheminots, avec on a décidé d'inviter des privilégiés, donc hein, deux cheminots. Dominique Sens, qui est responsable et secrétaire général des cheminots CGT du Nord-Pas-de-Calais. Dominique, bonsoir.
Salut.
Ah, il va falloir que tu parles dans le micro.
Salut.
Ah oui, il est vraiment là. Olivier Descamps, qui est avec nous, qui est un militant cheminot de Sudrail. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Samuel.
Vous avez compris qu'on est en train de tester les micros. Mais on s'est dit, on a besoin de... Quand on a des privilégiés comme ça, il faut un petit peu les soigner. On a besoin de choses carrées. On a un économiste avec nous. Il va bientôt sortir un bouquin qui s'appellera « L'impérialisme du 21e siècle ». On l'a reçu sur cette antenne et on l'entend régulièrement sur cette antenne. C'est Benoît Boussemard. Benoît, bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer... Last but not least, ils disent, ça veut rien dire, hein. ça tombe complètement pas bien, mais on va commencer avec le meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac en parlant d'Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, Gilles Balbastre qui, il est journaliste, donc là on parle vraiment de privilégié là, pour le coup, hein, abattement fiscal la totale, vérité et mensonge sur la SNCF, transport de marchandises, changeons d'air, ce sont les deux films qu'il a réalisés sur la question de la SNCF. Qui est une question importante pour lui, je pense. Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
Ça marche bien. Alors, le sujet est vaste, mais d'abord, il va falloir que nous fassions qu'on passe par un sas de décompression. Nos auditeurs doivent passer par un sas de décompression. Ils ont entendu à la télé que le cheminot coûtait cher, que le cheminot, avec ses multiples primes, etc., était un véritable gouffre pour la nation en plein redressement macroniste. Ils ont entendu que les cheminots partaient en retraite à 35 ans, je pense, 36, je ne sais plus, enfin bon, et qu'ils manipulaient des millions, des milliards en bourse, etc., et qu'ils étaient l'origine même de nos maux. Alors, quand ce sera fini avec les cheminots, bien sûr, ce sera les fonctionnaires, hein, et après les fonctionnaires, les gens en CDI, et après, allez savoir, les juifs, les musulmans, que sais-je encore ? On va rigoler, quoi ! Gilles, le traitement médiatique de cette question, qu'en as-tu pensé, toi qui es un spécialiste ? Parce que tu as aussi commis ce fameux film des Les Nouveaux Chiens de Garde.
Ouais, alors, d'abord, je te félicite, parce qu'on voit vraiment quand même ton travail d'investigation, parce que tu as quand même réussi à placer Juppé. Et je suis de Bordeaux, donc ouais. On sent quand même là le clin d'œil.
Et puis on parle des cheminots, 95.
Un vrai travail de fond, donc merci, oui, en plus, 95. Alors, tu me demandes de faire un petit commentaire sur le traitement médiatique, et j'avoue que je ne l'ai pas vraiment préparé, parce que...
Bon, t'as pas besoin.
Je ne sais pas. Alors, là, je suis occupé à faire un film sur la casse du service public de l'énergie avec la FEDE-CGT Énergie. Donc, je suis pas mal occupé. Et là, il y a du grain à moudre aussi. Mais je pourrais parler d'abord d'une impression générale que j'ai pu avoir. Et c'est peut-être pas mal aussi, plutôt que d'être uniquement sur des faits précis. Alors, il y a des faits précis, hein. Juste, je les avais vus. Par exemple, Le Monde, c'est-à-dire le journal de Xavier Niel, le patron de Free, du 17 février, dit « Le rapport Spinetta sur l'avenir du ferroviaire souligne une évidence. Le système est à bout de souffle et attendre pour agir ne ferait qu'aggraver la situation. » Donc, le journal de référence pose quand même déjà le débat et le pose assez fortement. Le Figaro, le journal de Serge Dassault, le patron de Rafale, la SNCF, Monument en péril. Ça, c'est le titre d'un édito du 15 février. Et du 5 mars, irresponsable syndicat. Donc, j'ai pas besoin de vous lire la suite de l'édito. Je vous en ferai grâce. Mais déjà, on peut voir ce que ça donne. Et Libération, le journal de Patrick Drahi, le patron de SFR, du 25 février, avec l'inégalable Laurent Geoffrin. Alors, Libé, c'est le grand écart entre démontrer qu'ils sont de gauche, ou tenter, surtout, et en même temps, taper quand même sur les fonctionnaires, les cheminots, etc. Alors, l'esprit du rapport Spinetta, même s'il est d'une qualité indiscutable, ça c'est Geoffrin, qualité indiscutable, nos camarades cheminots nous en diront deux mots, parce que, a priori... J'entendais encore des cheminots parler sur France Info tout à l'heure. Ils remarquaient que c'était un copier-coller de d'autres rapports déjà. Enfin, que il y avait un spécialiste qui accrochait le syndicaliste en disant mais il y a eu des négociations, les assises sur la mobilité, où on a pu discuter, il y a eu plein de choses, etc. La SNCF a été très peu parlée. Ils ont quasiment pas parlé de la SNCF. Et le syndicaliste faisait remarquer que après des assises, il a fallu quand même un rapport. Donc, comme quoi les assises n'étaient pas très complètes puisqu'il a fallu le rapport. Alors, moi, ce que je peux dire, ce que j'ai vu, c'est que c'est évident qu'il y a l'éditorialiste qui vont en même temps commencer à taper sur le statut des cheminots, sur l'excessive dépense, etc. Un système à bout de force. Et jamais, bien entendu, expliquer ce qu'on a expliqué avec les camarades cheminots dans le film Vérité mensonge sur SNCF et après l'autre transport de marchandises changeant d'air, où on montre que c'est un abandon total de l'investissement depuis des décennies dans tous les domaines de la SNCF, plus un management particulier.
Monsieur Balbastre, vous dérivez. Est-il vrai, oui ou non, que Vladimir Poutine est derrière les cheminots?
Pas du tout. Donc, il pose la question. Alors, après, pour le moment, et ça c'est important aussi, il n'y a pas eu grève encore. Donc, ils n'ont pas sorti les lance-missiles. Ils n'ont pas tout à fait sorti les lance-missiles. Et on peut voir, notamment, j'ai vu plusieurs unes de presse quotidienne régionale, où on s'interroge sur les privilèges des journalistes. Alors avec toujours ce genre de titre vicieux et vachard, c'est les cheminots ont-ils des privilèges? On se demande s'il n'y a pas déjà une partie de la réponse. Mais jamais ils parlent comme ça de Bernard Arnault, de Xavier Niel, etc. Mais on sent que... Alors, il y a eu toutes les petites lignes. Hein, le problème des petites lignes, ça, c'est ils vont pas non plus taper trop. Ils hésitent. Ils tapent pas complètement, un peu, mais pas complètement. Je crois, et peut-être que les camarades cheminots peuvent le confirmer. Mais on sent qu'ils préparent le terrain. Et encore une fois, ils tapent pas parce qu'il n'y a pas eu la lutte encore. Et ils attendent. Il n'y a pas la grève. Et la grève, c'est vraiment quelque chose que les médias ne supportent plus. Je veux dire, lutter, c'est insupportable. Résister, c'est insupportable. C'est important.
Dominique Sens de la CGT, Olivier Descamps de Sudrail. Est-ce que ce traitement médiatique en tant que tel, juste ça, est-ce que en qualité de cheminot et de syndicaliste, vous en tenez compte? Est-ce que vous comprenez que derrière, il y a une opération de propagande à grande échelle où
Effectivement, ça en devient même ridicule de la part de ces mêmes médias que Gilles a très bien dénoncé dans son film Les Nouveaux Chiens de Garde, mais je crois qu'il y aura une suite aux Nouveaux Chiens de Garde du capitalisme, de ressortir tous ces vieux poncifs poussiéreux que plus personne n'écoute, que plus personne n'entend, à part ceux qui rémunèrent ces médias à la solde du grand capital, quoi. Mais quand même, les médias locaux, les médias régionaux ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. D'autres, quand même, mais Libération, même si je ne suis pas un lecteur, mais c'est bon, tout le monde sait bien que c'est un journal rémunéré par la CGT. Ce matin, ça c'est pour la boutade, mais je crois que c'est ce matin qu'il y avait une double page où il y avait une comparaison SNCF-DB, le chemin de fer allemand, et où il y avait démonstration qu'en France, ça ne coûtait pas si cher et les cheminots étaient plus productifs. Donc je pense que l'opinion publique n'est pas gagnée par ce gouvernement. Mais effectivement, on ne s'est pas encore lancé dans une grève de contestation de cette réforme du ferroviaire, parce que après les assises de la mobilité, il y a eu le rapport de M. Duron, un socialiste, ou on l'appellera comme on veut, un social, bon. Mais il est toujours là.
Un social enculé. Non, je rigole.
Sur les infrastructures, et où déjà on parlait de rentabilité des soi-dit lignes, mais qui en fait sont des lignes d'aménagement du territoire. On en a plusieurs sur la région des Hauts-de-France et aussi sur le Nord-Pas-de-Calais. On a fait ce qu'on devait faire sur l'étoile de ferroviaire de Saint-Paul. Imaginez regarder la carte du Nord-Pas-de-Calais sans les trois voies de l'étoile ferroviaire de Saint-Paul en termes d'aménagement du territoire et de services publics accessibles par tous, en tout point du territoire. Il y a d'autres médias aujourd'hui qui nous donnent plus écho aussi. Et puis, on a nos propres médias syndicaux. On avait sorti un journal type journaux gratuits, La Vraie Info, distribué à plus de 25 000 exemplaires sur la région. On va sortir...
Vous, la CGT
La CGT avait sorti cet exemplaire-là.
Qui veut la peau de la SNCF? Ah, c'est bien, c'était distribué au métro ou pas?
C'était distribué aux entrées des guerres, aux usagers, à la population, aux organisations syndicales. Le deuxième numéro est à paraître pour avril. Et puis en termes de traitement médiatique, qui voulait nous faire passer pour des gréviculteurs ou des brûleurs de pneus, ceux qui ont regretté qu'on ne parte pas en grève tout de suite à la promulgation du rapport Spinetta nous ont même traité de mou du genou. Bon, on verra bien quand on sera décidé, la lecture de ce projet de loi qui vient d'être rendu public aujourd'hui.
On va en parler. Olivier Descamps, qu'est-ce que ça fait quand on est cheminot, que c'est notre travail, quoi, tous les jours, etc. Et quand on rentre à la maison et qu'on allume sa télé et qu'on entend qu'on est un fainéant, un privilégié, etc. Ça fait quoi?
Ça fait que on n'a pas forcément envie d'allumer la télé, ou alors on l'allume pas sur les chaînes dont les patrons sont aussi les patrons de la presse qui nous désinguent tous les jours. On essaye de se choisir d'autres médias. Et moi, je lisais ce matin dans le métro, je lisais un article sur le Monde Diplo du mois de mars qui justement disait que c'était une habitude complètement d'énarque de dénigrer le chemin de fer et le transport par rail. Pour un énarque, et on en a pas mal des énarques dans ce gouvernement, et le président de la République en est un lui-même. Voilà, le chemin de fer, c'est le chemin de fer de papa. C'est l'avenir, c'est l'automobile. Alors que moi, pour moi, l'automobile, ce serait plutôt Georges Pompidou, qui ne représente pas forcément l'avenir, quoi. Et c'est vrai que l'avenir, ce serait plutôt le rail, pour moi. Mais donc voilà, on fait notre affaire. Par contre, je voudrais revenir un petit peu, je voudrais analyser un peu plus les choses. Dominique Sens en a touché quelques mots légèrement. L'opinion publique n'est pas l'opinion publique de 2003, 2007 ou 2010, quand on manifestait pour les retraite. On était parti en 2007 et 2010 sur nos retraites et sur essayer d'élargir le mouvement pour les retraites de chacune et chacun des autres corporations. La mayonnaise n'a pas vraiment prise. Là, on s'aperçoit, enfin, je sens quand même, moi, quand je parle à des amis, quand je donne des tracts dans la rue ou dans les gares, comme on a fait ce matin, hein, que l'opinion publique est plus sensible à cette volonté de casse du service public ferroviaire. Et je pense qu'il n'est pas très habile, Macron, de faire ça maintenant, et quand même avec des gros sabots, et en envoyant, alors excusez-moi, mais moi je suis tourquenois, en envoyant désinguer la SNCF, l'autre genou du gouvernement, le GG national, Gérald Darmanin, qui ferait mieux de s'occuper de ses affaires à lui, oui, avec des guillemets, les affaires. Parce que, voilà, il en a pas mal, plutôt qu'il devrait laisser les cheminots tranquilles.
Il faut mettre des guillemets, hein. C'est le seul moyen de se protéger aujourd'hui. Non, pardon, je comprends. On parle de cheminots. On parle de travailleurs. Ça, on ne nous le dit pas trop, en fait. On parle de cheminots comme s'il s'agissait d'une catégorie à part de la société. Est-ce que vous vous sentez à part? Est-ce que vous vous sentez spécialement privilégié? Et puis, de qui on parle? De combien on parle? C'est-à-dire, Moi, on me dit cheminot, je pense au mec qui conduit les trains, mais j'imagine que c'est la SNCF, c'est combien ? C'est combien de salariés ? C'est quoi comme genre de métier, etc.
Ah bah, je peux te donner la réponse si tu veux.
Ah oui ?
Ah ben bah oui, attends.
Ah, c'est Benoît Boussemard. Oui,
bah. Actuellement, la SNCF, mais la totalité de la SNCF, donc ce qui est infrastructure, réseau ferré, mobilité, etc., c'est 271 000 personnes en équivalent temps plein.
Il fait non, Dominique.
Ah, c'est énorme. Hein. Donc,
On ne va pas se bagarrer sur les chiffres, mais les cheminots du groupe public ferroviaire, parce que SNCF, c'est beaucoup plus large que ça, il y a 1280 filiales de par le monde qui n'appartiennent pas au groupe public ferroviaire. Ouais. Alors ceux du groupe public ferroviaire, plus les filiales de droit privé, ça rejoint le chiffre de Bono. Dans le groupe public ferroviaire, on est en dessous des 150 000, tout statut confondu, c'est-à-dire les précaires, les PS25, on est plus proche.
Ah, vous avez des précaires ?
On a des précaires.
Des précaires privilégiés.
De plus en plus.
De plus
des précaires qui n'ont pas le statut de privilégié des cheminots.
Et puis, des précaires qui sont payés en dessous du SMIC, où la SNCF est obligée de relever.
La première position de la grille de salaire. Le salaire net est en dessous du SMIC et la direction, sous la pression des organisations syndicales, par un artifice d'une nouvelle prime, effectivement celle-là elle existe, c'est la prime pour ne pas rester en dessous du SMIC. Mais les primes de charbon ou d'absence de prime, ceux qui en perdent encore,
pas, ça. Oui.
Ça n'existe plus effectivement.
C'est sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle la fachosphère.
Et puis on a de plus en plus d'autres précaires, comme des CDD seniors qui viennent de nous être imposés, ou des CDI intérimaires. Qui renvoie aux politiques de l'emploi de n'importe quelle autre entreprise privée qui n'a pas une vision fiable de son avenir ou une vision court-termiste de son avenir. Mmh. Et qui nous renvoie, nous, à l'analyse de dire que Pépi, Janté, le président de Réseau et l'ex-président de Peugeot qui est à l'épic de tête, attendaient avec impatience cette loi de énième réforme du système ferroviaire. La loi de 2014 qui devait tout changer, tout remettre à plat, elle n'aura pas duré 4 ans. Quoi. Et là, on nous renvoie derrière une nouvelle loi qui vise encore l'éclatement du service public ferroviaire en société anonyme, en ouverture à la concurrence et en réduction du réseau à hauteur de 9000 km de voie.
On va parler du rapport Spinetta, mais cheminot. Tu conduis les locomotives,
Je travaille au poste d'aiguillage de Lille-Flandre, donc ça veut dire que si vous êtes en retard à l'arrivée à Lille-Flandre, c'est de ma faute, forcément.
Ah bah ouais, il fallait un coupable.
Les musulmans, russes.
Que pour compter ces 3000 euros par mois, il faut quand même bien prendre du temps sur le temps de travail. Donc non, ça c'est la boutade. Non, c'est pas être privilégié que de travailler en 3-8. Sans horaire défini 3 semaines avant. Alors moi, je vais pas vous faire pleurer, mais je vais vous expliquer mon boulot.
Ouais, vas-y,
mon boulot, explique. Moi, j'ai 30 ans de SNCF. Je suis rentré donc en 85, donc ça fait peut-être même plus un petit peu plus que 30 ans. Je travaille en 3-8, ce qu'on appelle à la réserve. Donc la réserve, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de poste prédéterminé à l'avance. Donc à la SNCF, notamment à SNCF Réseau, dans les postes d'aiguillage, il y a des gens, ils savent le 1er janvier ce qu'ils feront le 25 mars, parce qu'ils ont un roulement qui suivent, ils font 3 matinées, 2 repos, 5 soirées, voilà. Donc ils savent, c'est écrit sur toute l'année. Moi, je fais les remplacements de ces gens-là. Donc on touche une prime de réserve, ça c'est vrai, hein, qui est l'équivalent de 80% de la prime de travail. En gros, ça représente 300 euros pour moi. Mmh. Hein. Mais par contre, je ne sais pas, à 3 semaines à l'avance, je ne sais pas ce que je fais. Donc ça veut dire que vous imaginez bien que quand vous voulez faire des repas à la maison...
Le week-end, chez le médecin.
Prendre des rendez-vous chez le médecin.
Non, mais le week-end, t'es libre. Le week-end, non ?
Non. Ah non, on travaille.
Ah oui, les trains circulent aussi.
365 jours sur 365. Bon, donc voilà. Donc je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais voilà. Et je gagne au bout de 30 ans de carrière. En net, mon net, il tourne autour de 2003-2005. Ça dépend des mois. Et il faut savoir aussi que les primes de dimanche et fête ou les primes de nuit. Alors les primes de nuit à la SNCF, c'est 2,62 € de l'heure. Hein, 2,62 € en plus de l'heure. Mmh. Les dimanches et fêtes, on est à moins de 5 euros. Moins de 5 euros en plus de l'heure. Donc ça veut dire que vous êtes bloqué un dimanche, que vous ne pouvez pas finir le repas ou pas entamer le repas avec belle-maman. Vous avez sur 8 heures, 8 fois 4, 32 euros.
Euros en plus. Ne pas bouffer avec sa belle-mère, en soi, c'est déjà une prime.
Gilles, j'ai une petite question à te poser. Et vous avez combien, par exemple, de semaines de vacances dans ce travail que tu es en train de raconter?
Pas plus que 52 par an. Non, trêve de plaisanterie. Alors, en 3-8, donc ça veut dire qu'on travaille 5-13, 13-21, 21-5, selon les périodes. On a 104 repos. Par an, enfin on considère les deux jours de week-end, quoi, sur les 52 semaines, 104, plus on a 18 jours de ce qu'on appelle de repos de RU, donc ça fait 104 et 18, 122, et puis il y a une dizaine de jours, c'est des repos compensateurs de nuit, et
pour compenser la pénibilité des travaux de nuit et en poste décalé.
Ouais. Donc ça fait, moi je suis à 132 repos par an.
Je posais cette question parce que les journalistes, par exemple, qui ne sont pas des privilégiés, contrairement aux cheminots... Non.
C'est du populisme de dire...
Dans le service public de l'audiovisuel, et tant mieux pour eux, je dirais.
Même pour nous.
En 5 semaines de congés payés, 3 semaines de ce qu'on appelle de congés d'hiver, DUVRS, parce qu'ils travaillent les jours de fête, les dimanches, etc.
Populisme.
Et 4 semaines de RTT, ce qui leur fait à peu près 12 semaines de congés, avec ce dégrèvement d'impôt fiscal de 7 500 euros. Quelqu'un comme Thomas Soto, par exemple, que vous connaissez, qui est arrivé sur le service public cette année, qui est quelqu'un vraiment qu'on aime bien, qui est gentil, qui sourit tout le temps. Il sourit. Thomas Soto, c'est un journaliste qui fait complément d'enquête. Je pense que des gens l'ont repéré. C'est quelqu'un qui était sur Europe 1 l'année dernière et qui s'est fait virer. Il présentait la tranche matinale. Il s'est fait virer par Patrick Cohen, qui était de France Inter et qui est allé sur Europe 1. Patrick Cohen venait déjà d'Europe 1. Enfin, donc, vous voyez des mecs du service. Thomas Soto gagnait 28 000 euros net par mois. Vous voyez. Donc, sont ces gens-là qui, souvent, vous traitent de privilégiés. Voilà. C'est quand même important de poser ça. Et quand ces gars-là se font virer, apparemment, d'Europe 1, il y a le service public pour le récupérer. Jean-Michel Apathy, qui était sur RTL Europe 1, a été récupéré par France Info. Voilà. Ce sont quand même des notions qu'il faut mettre en avant pour relativiser... Je pense, et il n'y a pas besoin forcément les privilèges.
Il y a un autre truc aussi là-dessus, tu parles des salaires. Moi, ça me fait penser à Florence Parly, qui est ministre de la guerre ou de la défense, je ne sais plus comment on appelle, il change de dénomination. Quoi. Florence Parly, qui était directrice de voyage chez nous, donc c'est une cadre qui décidait de la politique des TGV, en gros, qui a quand même été payée jusqu'au mois de mai, pendant 6 mois en 2017, 52 000 euros par mois. 52 000 euros par mois, ça veut dire plus que nous tous gagnons en un an, presque deux fois ce que gagne un cheminot normal en un an. Et elle disait qu'il fallait faire des économies.
Monsieur Olivier Descamps, nous sommes une antenne sérieuse, nous n'acceptons pas ce genre de propos populistes.
C'est populiste.
Dominique Sens, le nom de cette ministre des Transports maintenant, puisque qui doit, j'imagine, aussi vivre difficilement ses fins de mois, c'est qui encore la ministre des Transports là?
Madame Borne,
elle est intervenue aujourd'hui, non?
Qui a aussi sévi à la SNCF, effectivement.
Ah ben donc,
la stratégie. Hein. C'était une stratégie.
Comme Monsieur Pépi était avant la stratégie aussi.
Aujourd'hui, elle a entériné, grosso modo, je pense, le rapport Spinetta.
On n'a pas fini de l'analyser, mais on n'était pas dupes et il n'y a quasiment aucune surprise. Mis à part que le Premier ministre, il ne faut pas se tromper de première lettre, là, le Premier ministre disait, peut-être un peu pour désamorcer, que les petites lignes, ce n'est pas lui depuis son bureau à Paris qui va fermer les 9000 km de petites lignes, de lignes d'intérêt général et d'aménagement du territoire qui qualifient de petites lignes et non rentables. Mais il reportait ça aux régions. Il faut savoir que Xavier Bertrand, à la tête du conseil régional des Hauts-de-France, s'en prend la direction de la SNCF, et peut-être qu'il a raison. Parce que dans la convention qui signe jusque maintenant avec la SNCF pour les TER, on vient d'ajouter les trains d'équilibre du territoire, les TET. Une nouvelle convention avec l'État qui était avant autorité organisatrice. Ben Xavier, il a toujours reçu, nada, 0,1 centime d'euros de cette convention, qui s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros.
On va parler de chiffres, mais est-ce que tu peux maintenant donner synthétiquement le contenu de ce rapport Spinetta ? On parle d'attaque du statut des cheminots, mais moi j'ai entendu dire aussi qu'on parlait d'aller vers la privatisation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux rapport ?
Le statut des cheminots, c'est l'argument politique fallacieux et poussiéreux qui est ressorti à chaque fois qu'on veut s'attaquer à l'entreprise publique ferroviaire. Il y a le statut de l'entreprise qui est aujourd'hui un EPIC, un établissement public, qui permet à l'entreprise de voir garantir ses emprunts pour toujours faire grossir la dette par l'État. Le statut de l'entreprise serait transformé en société anonyme qui ne permet plus...
Ça, c'est le rapport Spinetta qui prévoit ça.
Ça, c'est le rapport Spinetta. C'était la question.
D'un établissement public à une société anonyme.
Ouais.
Donc, c'est la porte.
C'est le projet de loi.
On n'a pas fini de l'analyser.
D'accord.
On l'a reçu aujourd'hui. Mais d'après mes camarades, vous avez vu comme moi à la télé trois membres du bureau fédéral de la CGT sortir avec Philippe Martinez pour remettre le projet de la CGT ensemble pour le faire. Qui fait que 47 pages par rapport à Spinetta qui en faisait 270, je crois. Mmh. Et celui du 11, je ne me rappelle plus du nombre de pages. Mais donc, il y a la transformation de l'entreprise publique en société anonyme, comme d'autres grands services publics avant nous. Hein. Mmh. Il y a l'ouverture à la concurrence, alors que l'ouverture à la concurrence, nulle part n'a fait l'objet d'un retour d'expérience objectif sur ses coûts, ses conséquences. Je parlais tout à l'heure de
la comparaison. On dit que c'est moins cher quand on ouvre la concurrence en général.
Bah, nous, on dit le contraire et on le prouve, on l'argumente dans le.
On dit aussi qu'en Angleterre, ça a été une catastrophe.
Effectivement, c'est ce qu'on dit aussi. On est en relation fréquente avec nos camarades cheminots anglais, syndicalistes anglais, qui on les invite souvent. D'ailleurs, ils vont venir à Paris avec nous jeudi prochain pour manifester. Et eux témoignent du contraire, surtout sur l'état du réseau et les catastrophes meurtrières qui ont eu lieu et qui ont conduit. Le gouvernement anglais a renationalisé le réseau anglais. Pourtant, ils ne sont pas revenus au bout de leur logique de privatisation et d'ouverture à la concurrence. Mais la concurrence en France, on voit ce que ça a donné avec les PTT, les FGDF qui a suivi le même chemin que SNCF. Hein, sous prétexte de directive européenne, on sépare le réseau GRDF, ERDF de l'exploitant.
C'est-à-dire là, il s'agit de séparer, en gros, pour parler vite, hein, les rails.
Ça s'est fait déjà.
Ça s'est fait. Ouais. Depuis 1997, la création du réseau ferré de France.
Il y avait RFF, déjà
RFF.
Ouais.
RFF, c'était quand même une directive européenne.
C'est-à-dire qu'on laisse
440 qui datait de 91 quand même. Et l'État français a attendu 1997 pour la mettre en œuvre, qui imposait simplement une séparation comptable. On aurait pu garder la SNCF unique et intégrée. Et faire une séparation comptable entre ce que coûte le réseau et ce que coûte l'exploitation, ou ce que rapporte les deux. Mmh. Et là, on s'en va vers l'explosion complète, peut-être la régression totale d'avant la nationalisation de la SNCF, avec plusieurs réseaux, plusieurs entreprises ferroviaires à la taille des nouvelles régions. C'est le principal danger.
Ouais. Ce que dit là Dominique, c'est quand il parle de on revient à la situation antérieure à 1937 ou 1938, c'est-à-dire la nationalisation de la SNCF, à la demande des compagnies privées, parce que c'était ingérable, parce que c'était trop cher.
Rothschild et autres.
Voilà. Et donc en 1937, les privés ont dit on jette l'éponge et on demande à ce que ce soit géré nationalement parce que c'est pas rentable. Donc aujourd'hui, en 2018, je pense pas que ce soit plus facile par des entreprises privées, sauf que elles vont prendre ce qui est juteux.
Voilà. Nationalisation des pertes, et privatisation des bénéfices, en fait.
Tout à fait.
C'est-à-dire que de toute façon, lorsque les chemins de fer français ou européens d'une manière générale ont été mis en place. C'était des investissements considérables. Et là, on a demandé l'État, voire même les petits emprunteurs, des fois, pour investir. Et ensuite, une fois que ça a été rentabilisé, comme le tunnel sous la Manche, hein, on a refilé ça.
Comme les autoroutes. Les autoroutes commençaient à devenir bénéficiaires pour l'État et on les a refilées pour 1 euro symbolique aux compagnies privées.
Il y a quelque chose d'important, par exemple, pour le grand public, c'est que dans quelques années, on va avoir donc, par exemple, un opérateur sur les Hauts-de-France, hein, qui peut être Keolis, une filiale de la SNCF ou la SNCF, voire d'autres.
Fleury-Michon, Fanus.
Et Champagne-Ardennes, où il y aura un autre opérateur, et la Bourgogne, un autre opérateur. Il y a des liaisons de TER parfois entre ces régions, ça peut arriver. Hein, tout ça peut peser. Peut-être poser problème, la discontinuité des opérateurs. On va vers quelque chose qui peut, à terme, poser des problèmes de retard, de correspondance, voire même...
Mais les retards, il y en a déjà plein.
D'accidents éventuellement.
C'est déjà le cas, parce que ici, on a tous l'âge de pouvoir parler du Calébal. Le Calébal, c'était un train mythique qui démarrait même, même à Londres et qui arrivait jusqu'en Turquie. Aujourd'hui, Dominique parlait des trains d'équilibre du territoire. Ces trains d'équilibre du territoire, le Calébal était resté en train d'équilibre du territoire et là, depuis quelques années, il est séparé et donc il est partagé entre Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardennes et ça pose d'énormes problèmes de correspondance parce que forcément les
aller de Calais à Bâle, en fait, du coup.
Oui, mais il y a peu de gens qui vont de Calais à Bâle quand même.
Mais
passer les frontières régionales, c'est très courant quand on travaille.
Pieds dans le plat immédiatement? Vas-y. Parce que là on sait bien, il y a des spécialistes, voilà. Mais le ressenti, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous savez. La classe ouvrière dans son ensemble, dans ce pays, elle a un regard sur les cheminots quand même, à la fois comme on se dit merde, si eux ils partent, tout il peut péter, quoi. Donc il y a une espèce, on sent que il y a une vraie identité des salariés cheminots de la SNCF. Ce que je voudrais savoir là, c'est du temps a passé quand même. Hein, il y a eu quand même de grosses attaques, des récentes, hein, la loi travail, etc., qui concerne tout le monde, hein, bien sûr. Est-ce que les cheminots actuels, là aujourd'hui en 2018, sont conscients de ce qui leur arrive et sont décidés à agir?
Ah oui, moi je pense que les cheminots auxquels je parle au boulot, ils sont résolus à faire un grand mouvement sévère de grève pour sauver, non pas leur statut, mais sauver, je pense. Je pense que ça en est là. Hein, c'est sauver le service public ferroviaire. C'est pas sauver son statut.
C'est fondamental.
Dominique, le statut, c'est, je le disais, hein, c'est ce qui est mis en avant pour nous discréditer. Mais quand même, moi, alors, Olivia a parlé de son métier. Moi, je suis agent d'entretien de la voie. Je suis chef d'équipe voie à Cambrai. On n'y fait pas que des bêtises. On fait aussi de l'andouille, c'est bon. Je travaille comme Olivier, 365 jours par an, 7 jours sur 7, en assurant l'astreinte, qui est pour nous la continuité du service public. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand vous êtes chez vous ou dans un repas de famille, il faut éviter de les faire quand vous êtes d'astreinte, parce que vous êtes appelé et vous devez réagir tout de suite. Quand je suis arrivé à Cambrai, on était 15 dans l'équipe. On avait un parcours qui allait de Saint-Lenoble, je ne sais pas si ça vous parle, jusqu'à Busigny. C'était relativement raisonnable. Même si moi, j'habitais un bout du parcours à Saint-Lenoble. Alors, je ne vous dis pas, pour aller à Busigny, je mettais du temps. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7 et ils ont le double de parcours. Et de l'autre côté, pour aller de Douai à Lille, c'est la même chose. La baisse des effectifs pour faire des gains de productivité, ça a un impact sur la sécurité et la régularité des trains. Moi, je prends le train tous les jours, le plus souvent possible. J'en entends encore qui disent, regardez, ces fainéants, ils sont sur le côté, appuyés sur leur pelle, au lieu d'aller travailler. J'ai envie de leur dire, monsieur, ils ne peuvent pas travailler sous le train. Quoi. Donc, la politique des différents présidents de la SNCF qui sont succédés, celui-là, ça fait un moment qu'il est là, d'ailleurs, malgré les casseroles qui traînent, elle est légitimée par les gouvernements successifs.
On l'a montré, Dominique.
Mais donc, pour répondre à la question, les cheminots qui souffrent de leur dégradation de conditions de travail, du manque d'effectifs et du cheminot bashing du moment, même si on peut relativiser, ils sont vraiment en colère, surtout suite au rapport Spinetta, et quand ils vont découvrir les subtilités qu'il y a dans le projet de loi, et demain, dans le projet d'entreprise du président Pépi, je pense que leur colère va augmenter. Mais je pense aussi très vite qu'on a besoin de toute l'opinion publique et qu'on ne sauvera pas toutes les voies nous-mêmes avec nos petits bras musclés de cheminots.
Le 22 mars, c'est le jour de la...
Et les citoyens ont intérêt de s'occuper de
leur
avenir.
Le 22 mars, c'est le jour de la mobilisation. Il y aura une mobilisation, y compris à Lille, hein, donc même si on en reparlera après, hein, mais à Lille, porte de Paris. On nous a dit, Benoît Boussemard, économiste, on nous a dit que les cheminots nous coûtaient cher et que la SNCF était endettée. Est-ce que tu as fait des recherches sur cette question?
Justement, j'ai regardé de très très près la SNCF et tout ce qui était les comptes publiés par la SNCF. Alors c'est compliqué au départ parce qu'on a la SNCF tout en haut et les deux EPIC en dessous qui sont les EPIC qui sont liés à la mobilité, donc les voyages, etc. Et puis l'EPIC qui s'occupe du réseau ferré. D'accord.
Bon. En fait, il y a le rail et la roue. On a
Absolument.
Séparé la rail, le rail de la roue.
Et donc ça s'est séparé depuis un bout de temps. Sauf que dans les comptes qui sont publiés, et ça c'est particulièrement vicieux, et je vais vous expliquer pourquoi, notamment par rapport à 2015-2017. On a isolé une partie qui n'était absolument pas dans les comptes, mais qui maintenant, comme par hasard, est en train de revenir dans les comptes pour augmenter l'endettement, mais de façon faramineuse, de la SNCF pour faire plier les cheminots par rapport au public. Je vais vous donner quelques chiffres parce que ça vaut le coup. Quand on regarde, il y a quelques années de ça, l'endettement de la SNCF, l'endettement de la SNCF n'était pas si terrible que ça. L'endettement net financier de la SNCF, je prends 2007, c'était 4,5 milliards. D'accord, 4 milliards 5, c'est rien.
Mais par rapport à Drahi et SFR, par exemple,
attends, c'est que dalle.
C'est que dalle.
C'est que dalle. Quand tu prends ce même endettement il y a encore quelques mois, tu prends ici, pour la partie qui était la partie complète, on est encore en 2013, on était à 7 milliards 4. Tu sais à combien on est maintenant? À 54 milliards 6. Ben, il y a eu un petit tour de passe-passe comptable qui fait que toutes les dettes qui étaient les dettes de l'État, notamment pour les grandes lignes TGV, etc., tout ce qui a été la politique de mise en avant, pour dire « Oh, nous, on est les balèzes du coin », et puis en plus, ils vendaient ça à l'étranger, je veux dire, ils ont vendu aux Chinois, ils ont vendu à des tas de choses, hein, donc c'est pas simplement franco-français, ce truc-là. Donc l'endettement net, maintenant, il est passé à 54 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 47 milliards sur le dos de la SNCF en 2 ans. En 2 ans. D'accord ? Le chiffre d'affaires n'a pratiquement pas bougé entre les deux. Il a augmenté de 3 milliards. Et on est quand même... c'est pas une petite entreprise, hein, la SNCF. Le chiffre d'affaires de la SNCF actuellement, c'est 33 milliards et demi. C'est une des plus grosses boîtes de réseau ferré du monde. D'accord ? Quand tu compares ça aux Canadiens ou tu compares ça aux Chinois, les Canadiens et les Chinois sont au tiers de ça en termes de chiffre d'affaires. Donc on est avec une boîte qui tourne et qui tourne bien, d'accord, qui est constamment rentable. Alors, sauf qu'on a dit qu'il y avait des déficits.
C'est rentable ou c'est déficitaire, je comprends.
Ah, justement, il y a un vrai problème. En fait, pour moi, c'est tout à fait rentable si on ne lui impute pas des charges indues.
Ah bon, il y a des charges indues?
Ah ben, je ne te le fais pas dire. Attends, je vais t'expliquer un petit peu ça parce que ce n'est pas compliqué. D'abord, première chose, on n'a jamais mis les capitaux qui étaient nécessaires pour faire fonctionner cette boîte. D'accord. Quand on est dans un système capitaliste, tu rapportes du capital.
Hypothèse, hein. C'est une hypothèse.
On n'est pas en système capitaliste.
Hypothèse, on est dans un système capitaliste.
Tu rapportes du capital. Ouais. Mais tu rapportes du capital suffisamment pour que ta boîte tourne, pour acheter, ben, pour faire les voies ferrées, pour acheter les locaux, etc. etc. Bon. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de t'endetter énormément. Tu regardes toutes les compagnies internationales qui sont des compagnies privées, c'est ce qu'elles font. On était en train de parler tout à l'heure du fait que quand on allait privatiser les bijoux de famille. C'est ce qu'ils vont faire, bien sûr. La dette, elle a été remise là. Pourquoi? Ben pour, bien évidemment, la faire récupérer par le Pékin de base, c'est-à-dire nous. Nous, on va payer. Bon. Quand tu regardes ça ici, au niveau des boîtes, ça tourne très très bien. Tous les divers composants de la SNCF, ils sont rentables. Par contre, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des... une petite ligne dans les comptes de la SNCF, ça s'appelle perte de valeur. Mmh. J'ai noté que sur quelques années, donc sur 7 ans, on a eu au total pour 15 milliards de pertes de valeur. Et ces pertes.
C'est quoi ce terme?
Des pertes de valeur, c'est un terme comptable qui fait que tu crées des provisions. Par exemple, tu dis je vais fermer des lignes d'ici un an ou deux parce que j'estime qu'elles ne sont pas rentables. Donc tu prends tes précautions en termes comptables pour créer une provision qui va déduire ton bénéfice d'autant et qui engendre des pertes. Donc la perte, elle n'est pas encore là, mais tu l'as déjà constaté dans les comptes et tu dis on est en perte. Chapeau à M. Pépi, puisqu'il a constaté, comme par hasard, ici, en 2017, 9,5 milliards de pertes. 9,5 milliards. Et c'est ça qui fait que les fonds propres maintenant de la SNCF sont globalement négatifs. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vendre ça au privé à 1 euro.
Ah, bon, ça m'intéresse.
T'as compris, compris la manip? Donc on est en train de dire, les cheminots sont feignants. On est en train de dire, c'est une boîte pas rentable. Or, on voit très bien au niveau des salaires qui sont là que ce n'est pas des salaires mirifiques. On l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas les salaires qui plombent les comptes. Quand tu fais les calculs du résultat par rapport au salaire, tu vois, ils appellent il y a un compte qui est tout simple qui s'appelle l'excédent brut d'exploitation. On ne peut pas même prendre le résultat opérationnel puisque c'est le résultat après les salaires. Le résultat opérationnel n'a jamais été négatif sauf une seule année. Et encore, c'est parce qu'on lui a imputé des charges exceptionnelles.
C'était quelle année?
Alors, c'était l'année 2015 pour la partie mobilité.
Donc, la SNCF, ça marche?
Mais bien évidemment que ça marche, attends. Quand tu regardes l'excédent brut d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation a toujours été positif. Pas une seule année.
L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le profit, tout simplement?
Non, c'est le profit brut. Ouais. C'est-à-dire que tu retires du chiffre d'affaires tout ce qui sont les charges, que tu dois payer les charges normales, tu mets, je sais pas, des fauteuils, des charges externes, etc. Tu payes des impôts, parce qu'ils payent des impôts, bien sûr. Tu payes le personnel, tu sais, y compris les fameuses retraites dont ils bénéficient.
Oui,
de super privilégiés. Ouais. Et puis, tu as des impôts, des charges et des diverses courantes. Ils ont toujours été largement positifs. La dernière en date, tu vois, en 2017, l'excédent brut d'exploitation, c'était 4,6 milliards. Et tu te retrouves à la fin avec une grosse perte. Quel est le problème?
Eh bien, on va y réfléchir pendant la pause musicale qui arrive.
C'est incroyable!
Production.
Dans ce monde où la solitude est devenue une habitude, il y a parfois des endroits où l'on peut goûter avec joie des moments de vie épatants, avec des inconnus.
Charmant.
En voiture.
On aime bien prendre le train. On se sent bien quand on va loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantent à tous les instants, comme si on arrêtait le temps.
Pardon, monsieur.
Pardon, madame.
Je suis désolée.
Je suis désolée. Je voulais monter.
Monter.
Mademoiselle, je prends vos bagages.
Merci. Oh, qu'il est joli, son visage.
Vous allez où?
À l'étranger. Et vous?
Moi, je vais chez ma mémé.
On aime bien prendre le train. On se sent bien quand on va loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantent à tous les instants, comme si on arrêtait le temps.
Tiens, là-bas, il est.
Là-bas,
il y a de la place.
Et là-bas,
on pourra voir les vaches qui passent, les villes, les champs, les autoroutes, les paysans qui cassent la croûte, les ponts, les bois et les rivières.
Tiens, viens qu'on arrive à Nevers.
Nevers, 2 minutes
On aime bien prendre le train. On se sent bien quand on va loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantent à tous les instants, comme si on arrêtait le temps. Mais ce qu'il y a de plus marrant et d'encore plus intéressant, c'est de regarder tous les gens qui sont dans le compartiment.
Le vieux monsieur
et la grosse dame
qui semblent ensemble vivre un drame. Vous t'arrangez le saucisson.
Je l'ai oublié à la maison.
La jeune femme
et son enfant.
J'ai envie de faire pipi, maman.
Et celui-là qui est plein de pognon, qu'est-ce qu'il fait dans le wagon? Mon Dieu, c'est peut-être un espion. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'avion?
Quelquefois on prend un crayon, on tient les paroles d'une chanson qui commence par
on aime bien prendre le train.
La première classe, la deuxième classe.
À notre époque, c'est dégueulasse.
Ils sont cocus,
les chefs de gare, les Michelin, elles sont au grand quart. Il n'y a plus de train dans les campagnes. C'est le désert dans la montagne. On aimait bien prendre le train. On était bien, on allait loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantaient à chaque instant, comme si on arrêtait le temps.
Mais tout ça c'est bien joli, mais monsieur le contrôleur, les clandestins dans les WC, ils font semblant d'être constipés.
Les contrôleurs les pourchassent. Allons, monsieur, tirez la chasse.
Maître, maître, c'est terrible. C'est affreux, incroyable.
Que se passe-t-il, Rex? As-tu croisé le diable?
C'est tragique, effroyable, c'est horrible, infernal.
Garde donc tous tes adjectifs pour ton journal. Et dis-nous, de grâce sans en faire des tonnes, ce qui te fait sortir ainsi de ta personne.
France Info, une nouvelle, à l'instant, au moins...
Quoi, le CAC?
Non, plus 0,8%, demain beau temps sur la majeure partie du pays après dissipation des brumes et brouillards.
Hey, ça va mieux?
Oui, mais mon prompteur est parti. Tant pis, je vais puiser l'info dans ma mémoire. Voilà, je viens d'entendre donc, sur France Info, qu'en ce moment où je vous parle en plein Paris, des ravisseurs ont pris en otage au bas mot des milliers d'innocents qui rentraient du boulot. La rumeur circule que l'un d'eux a péri en avalant de travers son ticket de métro. Car, une fois encore, ce forfait porte le sceau. Non pas de Fantomas, non, pas non plus Zorro, mais...
Non.
Si.
Encore eux.
Hélas.
Les cheminots.
Et sans préavis, là, comme ça, au culot.
Il faut, baron, si vous permettez, frapper fort, déployer des troupes, défendre le château fort.
Oh oui, baron, ces soudards-là sont sans pitié. On m'a dit qu'ils violaient les femmes sans ticket.
Fusillons les meneurs, il faut décapiter sans hésiter l'état-major, la CGT.
Et c'est toujours l'heure de le mettre, voilà, sur le saucisse pois chiche.
de Radio Campus.
Avec un petit extrait de notre pièce de théâtre radiophonique intitulée Le Grand Festin, hein, dans laquelle eh bien, les élites, hein, pour parler populiste, se réunissaient pour faire passer une constitution européenne. Et ça a mal fini puisqu'il y avait une grève générale et finalement le château fort a été pris. Et au départ, il y a eu donc un mouvement de grève des cheminots. Et c'est de ce mouvement de grève dont on va parler aujourd'hui. On entend Dominique Sens, hein, je rappelle, qui est CGT, et Olivier Descamps, Sudrail. On a aussi Benoît Boussemard et Gilles Balbastre dans les studios. On a entendu qu'il y avait un dialogue qui s'instaurait aujourd'hui. Et puis moi, j'entends aussi, dans certains cercles, des gens qui disent « Mais ça sert à quoi de dialoguer ? C'est déjà plié. » Est-ce qu'il faut dialoguer ? Est-ce qu'il y a un dialogue social en cours aujourd'hui ?
Ouais, ça fait un moment que dans l'entreprise publique, on a de moins en moins de dialogue social. Et puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont en train de nous préparer le dialogue social du futur à travers le CSE, instance de représentation du personnel unique, qui verra beaucoup moins de représentants du personnel. Donc, quelque part, qui vise à couper des moyens aux organisations syndicales aussi. À être en tout cas toujours au plus près des salariés. Il y a Pépi, Monsieur Pépi, qui disait « Moi, je ne dialoguerai pas sous la contrainte, sous la grève. » Mais à chaque fois qu'il y a eu des grèves à la SNCF, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de dialogue et que Pépi faisait comme Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, j'ai décidé, et puis c'est tout. On est face à un gouvernement avec un président qui n'a jamais été aussi mal élu, qui adopte la même stratégie. Le 49-3, le 44-1, on l'a vu chez les sénateurs, etc. Et puis tout le système des ordonnances. Pour autant, je le disais tout à l'heure, la SNCF ne veut pas être vue comme grévicultrice et plutôt pour la concertation, mais une vraie concertation, une vraie négociation. C'est pour ça qu'on a proposé, on a présenté à ce gouvernement, comme on l'avait fait au précédent, notre contre-projet. Maintenant, si on n'est pas entendu, effectivement, il va falloir qu'on passe à l'action. On l'expliquera aux usagers, on ira à l'heure devant, parce qu'on n'a pas peur de la confrontation, et on les invite à se regrouper aussi pour peser plus fort, alors dans des associations, quelles qu'elles soient, mais surtout qu'elles ne soient pas de dogme libéral, comme malheureusement la FNOT, la plus grande, l'a été pendant un temps. Mais je pense que la FNOT aussi est en train de revenir sur ses positionnements. Maintenant, la grève sera peut-être incontournable, certainement. Les fédérations de cheminots sont en train de se rencontrer demain soir.
Oui, ça va, j'allais le dire. Il y a une réunion intersyndicale demain. C'est quoi le paysage syndical ? Parce que là, on a la CGT et Sud. On n'a pas pensé, parce qu'on n'a pas suffisamment de micros, à inviter la CFDT et les autonomes. Mais voilà.
Ils ne seraient pas venus.
tu parlais de dialogue social. Dominique a répondu en partie, le dialogue social à la SNCF. Alors, il y a quand même quelque chose. C'est une photographie du moment et ça va vous faire comprendre ce qui se passe, quoi. On parle du rapport Spinetta, on parle de la casse du service public de la SNCF, on parle des extrêmes avantages des cheminots qui sont la cause ou la conséquence de ces 55 milliards de dettes qu'on fait peser sur les pauvres Français.
Vous qui l'avez sur le dos maintenant.
Ouais, c'est nous qui l'avons.
Non, je suis pas d'accord.
Mais donc la dette.
La dette, elle est dans la SNCF maintenant.
Mais c'est la même en Angleterre et c'est la même en Allemagne.
Bien entendu. Donc, les niveaux de dette sont identiques.
Voilà, donc on parle de tout ça en ce moment, on parle de grève de cheminots. Que fait la direction SNCF hier à Paris-Gare de Lyon ? Elle fête en grande pompe les 80 ans de la SNCF avec les politiques, avec les financeurs, avec... à l'exclusion des cheminots, ce qui fait que Sudrail et la CGT ont dû manifester leur mécontentement et rentrer en force dans le lieu où ils faisaient leur petit festin et leur petite festivité. Donc le dialogue social de l'entreprise, c'est ça aujourd'hui.
Alors je vais poser la question encore plus crûment. Vous avez dans votre entreprise tous les syndicats. Hein, bon, ici on a la CGT Sud. C'est peut-être pas un hasard. On n'a pas tiré au sort non plus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet intersyndical demain ? Et est-ce qu'on doit se méfier des sociales traîtres ?
Je ne sais pas. Là, je te laisse la responsabilité.
Ma responsabilité.
La représentativité syndicale à la SNCF, c'est dans l'ordre. CGT au national, UNSA, Sudrail, CFDT, FO. Les autres, on n'en parle quasiment plus. sur la région, c'est CGT, Sud, UNSA, CFDT. CFDT avec l'AVJAC, les anciens autonomes conducteurs de train. Les nouvelles lois veulent que pour signer un accord, il faut atteindre 30% de représentativité. Donc aujourd'hui, si UNSA et CFDT signent un accord, ils dépassent les 30%, tout en faisant à peu près 16% eux deux. Pour dénoncer un accord, aujourd'hui, il faut 50%. Donc la CGT toute seule, elle ne peut pas. Elle peut signer un accord, on est à 35-5 au national, mais on ne peut pas dénoncer un accord. Il faut qu'on s'entende avec Sudrail.
Ah oui.
Le dialogue social...
Si vous voulez, on vous paye un coup après.
mais
on va arrondir les angles.
Mais le camarade Pépi paye certainement un coup avant à ceux qui signent les accords. Pourtant, même la CGT, même Sudrail signe certains accords. C'est pas qu'on est. Bon, mais c'est ça le dialogue social aujourd'hui à la SNCF. Sur la dette, très vite. Ouais. Pour les lecteurs d'Alternatives économiques, je crois que c'est lui qui a sorti un article sur la dette des entreprises françaises. Je crois qu'on parle de 1260 milliards d'euros, la dette des entreprises françaises. C'est pour relativiser aussi la dette qu'on nous jette au visage comme ça, et sur la responsabilité des seuls cheminots qui coûtent trop cher. Quoi. Il faut tout mettre dans le débat. Moi, je suis prêt à la confrontation, j'en ai pas peur, mais il faut tout mettre dans le débat. Voilà.
Bon, je vais poser une question de journaliste. Est-ce que vous allez bloquer le pays? C'est-à-dire, en gros, le 22 mars, il y a donc un mouvement de grève et de manifestation. Est-ce qu'on peut envisager que cette grève sera reconductible?
Alors, première précision, le 22 mars, toutes les organisations syndicales qui appellent à une manifestation à Paris.
Oui.
Il y a des préavis de grève pour couvrir ceux qui ne peuvent pas y aller sous une autre absence. Ce n'est pas un appel à la grève pour la CGT le 22 mars.
C'est un appel à manif. Ce
n'est pas non plus un ultimatum lancé au gouvernement. C'est pour montrer qu'on est déterminé. Et en tout cas pour la CGT. La précédente manifestation qui a été interdite par le préfet de Paris pour 2 cm de neige datée du 8 février, là on a doublé le nombre d'inscrits pour le 22 février.
Ça
c'est un peu
fort.
Normal, il y a eu Spinetta pour le 22 mars. Il y a eu Spinetta entre deux. C'est un peu ce que je disais comme colère. La grève, c'est l'échec de la négociation du dialogue social. Pour nous aussi, je le répète, on signe aussi des accords. Et on signe plus d'accords qu'on en dénonce ou qu'on n'en signe pas d'ailleurs. La SNCF. S'il y a une grève, ça sera la responsabilité du gouvernement qui ne veut rien discuter et qui reste sur son statu quo, c'est-à-dire ses rapports à lui, ses rapports de commande à lui.
Elle va être. Est-ce qu'il y aura des assemblées générales à la fin de chaque journée?
Il y a des assemblées générales quand la grève est reconductible, et effectivement, et on s'en va vers une grève reconductible. Alors après, la forme de la reconductible va être décidée demain soir par les fédérations de cheminots.
Dominique, il y a des choses importantes aussi qu'il faut préciser, et c'est là peut-être où l'enjeu de négociation, ou en tout cas de préparer le rapport de force est important. Il y a eu deux grèves en 2014 et en 2016, une sur la réforme ferroviaire et l'autre sur
la réglementation interne du travail.
Et oui, en fait, les conventions collectives, une nouvelle convention collective. Et le risque, c'est aussi, et je pense que les organisations syndicales sont au fait de ça, le risque, c'est un épuisement. Il faut savoir que, par exemple, quand tu fais 5 jours de grève à SNCF, tu as le week-end qui saute et qui est compté en grève. Donc, si tu fais 10 jours de grève, tu as les jours de repos qui sont comptés en grève. Donc,
est-ce qu'ils sont prêts à ça?
Et c'est ça, après, faut partir à combien, et au bout de 5 jours, tu te retrouves à combien? Donc, je pense que les camarades sont conscients de ça. C'est juste, moi, pour
bien
que...
Sûr.
Parce que je connais, parmi mes copains, des très radicaux, enfin, qui, eux, font pas
qui
souvent
attendent
grève.
Qui attendent que les cheminots fassent 2 mois de grève pour qu'on puisse les rejoindre.
Voilà, et qui font pas souvent grève et qui perdent pas à ce point de l'argent. Je veux dire, les camarades voient aussi les cheminots, voir leur capacité à tenir ou pas. C'est pour ça qu'on décide de pas une grève du jour au lendemain. Ça, c'était juste des petites remarques pour mes camarades qui sont toujours des grands va-t-en-guerre.
Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que demain, il y aura une interfédérale à Paris qui décidera des modalités de la grève. Je ne suis pas au niveau national de Sudrail, je ne suis plus au niveau régional de Sudrail, mais je m'intéresse encore beaucoup à ce qui s'y passe. Et énormément de camarades de Sudrail souhaiteraient que soit proposée une grève reconductible à partir du 22 mars. Ça veut dire qu'on décide que le 23 mars, il y ait quelque chose pour pouvoir permettre à ce que les cheminots puissent partir tout de suite et ne pas reprendre le travail après le 22 mars. Ce que disait Gilles sur 2014-2016, qui risquait d'un peu épuiser les cheminots, je pense que les enjeux n'étaient pas les mêmes, même dans la tête des cheminots. Même si le RH60, c'est-à-dire l'organisation de la réglementation du travail, c'était quelque chose d'important pour c'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que ça n'a pas été pris comme une vraie révolution par les cheminots, parce qu'on n'a pas su l'expliquer peut-être. Cette fois-ci, c'est ce que je disais tout à l'heure, les cheminots sont vraiment conscients que il y a un enjeu important de survie du service public et d'aménagement du territoire. Absolument. Et qu'ils sont conscients que le chemin de fer, que le rail, c'est vraiment un transport d'avenir et qui justement pourra nous sauver du tout carbone et de
ah oui, parce qu'il y a cette dimension automobile. On n'aura pas le temps d'en parler, mais véritablement, le rail, c'est l'avenir. De fait, hein, parce qu'effectivement, cette question écologique. Maintenant, on parle du 22 mars, Dominique, mais le 22 mars, il n'y a pas que les cheminots. Et cette convergence, est-ce qu'elle est due au hasard? Mais il y a aussi toute la fonction publique, les 7 syndicats de la fonction publique.
Et la RATP.
Il y a la RATP, il y a les étudiants, il y a les retraités, il y a les fédérations CGT, j'ai vu, hein, du commerce, de la chimie, etc.
Il y a des choses qui sont en train de se passer partout.
Donc le 22 mars, ça va être fort. Je rappelle qu'à Lille, ce sera donc à 14h30, porte de Paris, le 22 mars. Est-ce qu'il y a l'idée, parce que là je parle à un cheminot, mais je parle aussi à un cégétiste, donc de l'organisation syndicale qui est née en 1895 et qui a conquis notamment les congés payés, les retraites, la sécu, etc., par des grands mouvements de masse, et on fête les 50 ans de mai 68, voilà, aussi.
Oui, est-ce que
les cheminots sont corporatistes? Voilà, ma question elle est claire, est-ce que les cheminots sont corporatistes ou est-ce qu'ils vont se mêler à ce grand mouvement, peut-être, hein, qui va arriver, hein.
On nous a souvent accusé d'être corporatistes, surtout ceux qui voyaient ça d'un œil extérieur de la CGT, parce que quand on est dans la CGT, on sait bien qu'on travaille toutes les convergences. Je vais n'en citer qu'une, c'est celle avec la construction ferroviaire, et sur la région, on est particulièrement concerné, Alstom, Bombardier, AFR Douai, Outreau Technologies à Outreau. Et s'il y a moins de voies, ben, il y a moins de rails, il y aura moins de trains. S'il y a moins de trains, il y a moins de construction. Et à terme, il y aura moins de cheminots, c'est normal aussi. Mais qu'ils soient du public ou de la concurrence privée, ça sera le même résultat. Et il y aura plus de camions, peut-être, qui ne payent pas les mêmes coûts réels de leur mode de transport. Mais donc, on va dans ce sens-là et on travaille toutes les convergences publiques-privées depuis pas mal de temps. Et aussi avec les usagers, avec leur association. Il n'y a pas assez d'associations d'usagers. Il y en a une qui s'est mobilisée hier, je crois, à Lille Europe, sur la fin du Thalys. C'est tous les navetteurs avec Bruxelles.
Si je dis grève générale, ça vous parle? Là, à partir du 22 mars.
Mais tu faisais référence à 68. Bon, on sait qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va, mais on sait très bien aussi que le contexte a changé. Et particulièrement pour les cheminots, le droit de grève a été particulièrement durci. Bon, dans d'autres professions aussi, mais on peut encore trouver des comparaisons, mais c'est vraiment un mécontentement général. On a vu ce gouvernement, le président Macron, décaler 3 mois, je crois, le projet de loi santé, hôpitaux, tout ça, tous les EHPAD. Donc je pense qu'eux aussi en sont conscients de ce mécontentement qui est en train de monter, et c'est notre rôle d'organisation syndicale d'agréger tout ça et de jouer le rassemblement pour peser plus fort.
Vous travaillez actuellement, Dominique, dans les ateliers, dans les vous travaillez les gars, je présume.
Non, apparemment, ils n'ont pas besoin de travailler. Non. Apparemment, c'est eux qui se font travailler. Si j'ai bien compris.
Non, mais c'est important. Je pense que ce qui se passe actuellement, la préparation.
On travaille la forme de la reconductible pour s'inscrire dans le temps et durer. Et tout le temps que va durer le processus des ordonnances sur la case du service public ferroviaire.
D'autant plus qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Par exemple, dans la grande distribution, il va y avoir une grève de l'ensemble des carrefours le 31 mars.
Ça, c'est rare.
Par info. On n'a jamais vu ça.
Par info.
Je ne sais pas si tu vois.
Ils sont poussés au cul.
Donc,
le 22 mars 68, en fait, tu y étais, toi, Benoît?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Le 22 mars 68, c'était le début des mouvements étudiants en Nanterre. J'étais pas encore à Nanterre à l'époque, hein, je suis arrivé à Nanterre après.
Bon, merci, chers amis, camarades, d'avoir nourri cette émission ce soir. Merci, Gilles. Donc, ton film, là, le prochain, c'est toi, hein, on le dit, Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est toi. Mais là, il y a une suite.
T'as 10 secondes. Il y a un film pour la Fédé, CGT Énergie, mais ouais. On est en train de préparer ça. On va lancer une opération un peu plus importante. C'est pas une suite des Nouveaux Chiens de Garde, mais le titre tourne autour de Ceux qui tiennent la laisse. Donc, il y avait ceux qui étaient au bout, les journalistes. Eh bien, on va faire peut-être les Drahi, les Niel, les Arnaud, les Pinault, et surtout le lien qu'ils ont congénital avec la haute fonction publique, avec les politiques, et comment ils détricotent l'État à notre détriment et au détriment de tous les camarades qui sont autour là.
Ouais, je voudrais simplement conclure que nous, on est une union syndicale, on n'est pas une confédération, mais qu'on travaille en interpro. Celui-là. Et que je voulais dire que la grève, ça fonctionne, et que là, on vient d'être victorieux dans la région parisienne en ayant défendu les nettoyeurs de trains qui se sont mobilisés pendant une dizaine de jours. Donc, on fait grève.
Il y a plein de grèves partout.
Et
hein.
On gagne.
Il y a plein de grèves partout en ce moment. Il y a plein de victoires, on n'en parle jamais.
Quand on se mobilise, on gagne. Le but d'une grève, c'est bloquer l'économie. C'est pas faire chier les gens, les usagers. Quand les cheminots veulent bloquer l'économie, ils arrêtent de travailler. Il y a des usagers qui en pâtissent, mais la responsabilité au gouvernement, aux directions SNCF.
C'est d'ailleurs la preuve qu'il y a des jours où on travaille, puisque quand on arrête de travailler...
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On va retrouver dans quelques instants la rubrique cassette après la ZIC.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel!
Qu'est-ce qui se passe?
Allez, debout là-dedans!
Mais c'est quoi ce bordel?
Allez, debout là-dedans! Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers! Qu'on veut pas de militaires, que des militants! Allez, debout là-dedans! Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers! Qu'on veut pas de militaires, que des militants!
Les plus sceptiques, marabouts! Les plus réfractaires, contaminés.
Fais le forcing, sors la tiraille, sort les munitions,
l'artillerie, braquée, les camps sur les positions.
Bouge-les comme un NK,
bouge les défenses, réveille-les comme Zizou, réveille le stade de France.
Ce soir on vous met la fière.
Ce soir on vous met dans la tête une idée révolutionnaire.
Mission Haïti à coup de ghetto blaster.
Message de paix de Buenos Aires à Ramallah, tous solidaires.
De Dakar à Jakarta,
faire péter les watts comme un acte humanitaire.
Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères,
pour les nôtres, pour nos quartiers populaires.
Réveille-les et dis-leur c'est salutaire.
Allez, debout là-dedans.
Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer.
Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers.
Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Allez, debout là-dedans.
Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer.
Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers.
Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Ici d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes ici d'un peuple qui ne veut plus dormir. Ici d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes ici d'un peuple.
Tout le monde debout.
Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leur pantin. Assez bon, assez soupé de leur baratin.
Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisit-on qu'en camarade Washington ou Islamabad, ça me rend malade.
Et on peut pas y échapper.
Partout,
à la radio, dans les journaux, à la télé.
Mais c'est quoi ce monde, bordel?
En tout cas, je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards, s'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir.
Allez, debout là-dedans.
Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer.
Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers.
Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Allez, debout là-dedans.
Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer.
Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers.
Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Il y a urgence. On se rassemble, on se mobilise, on s'organise, réalise. Qui serait temps qu'on dramatise en bas de chez Watt? Y'en a qui crèvent la dalle, ça se part en live. Et les chances sont inégales, y'a plus de repères. Les minots sont du père, le climat est tendu. On se croirait en état de guerre.
Le message, c'est pour toi.
Depuis mercredi 27 septembre, c'est la Saint-Financement du RPR. Saint-Financement du RPR est le Saint-Patron des présumés innocents aux mains pleines. Depuis Saint-Financement du RPR, on ne porte plus les valises de la même façon. Il y a désormais, dans la démarche à cohorte du trésorier porteur de mallette, cette assurance virile de celui qui croit en la justice de son pays. Oui, lorsqu'il dépose sur le bureau de l'élu les quelques millions récoltés à droite et à gauche, le financier occulte sait maintenant qu'il contribue à la vie démocratique de son pays. Et, même mort, sa fierté demeure, quelque part, dans le magnétoscope d'un ancien ministre. Entre un 7 sur 7 inédit où Anne Sinclair révèle ses penchants centristes et un film X amateur mettant en cause des personnalités socialistes surprises sur le vif en train de pratiquer une politique de gauche, les cochons. Pour avoir, au sens propre, enrichi le débat démocratique, Saint-Financement du RPR a été canonisé en liquide avant d'avoir pu être mis en examen. Par conséquent, il dispose de l'immunité que lui confère sa fonction et c'est tant mieux pour lui. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2000, le soleil s'est levé dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Il va se coucher bientôt sur la rivière insolente. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur Radio Campus, le saucisse pois chiche.
Comment voulez-vous que des partis de droite qui travaillent ensemble et qui détournent environ 15 millions par mois et qui voient sur le palier d'en face un parti dit de gauche avec 3 ou 4 courants et une vingtaine de militants et qui détournent environ 300 millions par mois sans naturellement gouverner. Si vous ajoutez à cela les RMistes et les chômeurs, et bien vers droite sur le palier, il devient fou. Et ça n'est pas être gaulliste que de dire cela. Il est temps, maintenant, d'ouvrir le grand débat qui s'impose et qui déchire notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que des gens qui détournent plus que nous mettent en examen.